Alors, vous venez d'entendre Olivia Lévy, fan de sport. Elle a joué elle-même au foot. Et puis, elle a bien apprécié ce retour du football professionnel, du soccer. Mais pas n'importe quel soccer. Les deux grandes ligues, les niveaux 1 et 2 de la Bundesliga. Ray Lalonde est avec nous. Bonjour, Ray.
Bon matin, Paul.
Ben oui, on a brisé la glace hier en Allemagne avec une ambiance très différente.
Écoute, Paul, j'ai regardé un peu les matchs. C'était disponible sur Fox aux États-Unis hier matin, puis il y en a encore aujourd'hui. Effectivement, Mme Lévy a raison. Là, c'est un retour inespéré du sport majeur. Tu sais, il y a eu la UFC. Ce soir, c'est la NASCAR qui débute en Caroline du Nord.
Le Sud, je pense.
On avance et on progresse. Mais ce que j'ai noté hier, là, c'est quelques éléments importants à souligner. Les gars de la Bundesliga avaient eu 8 jours de préparation. Il n'y avait pas eu de match préparatoire. Tu sais, ils étaient, je pense, à la 26e journée du championnat au moment où ça l'arrêtait en mars dernier. Il y a eu du jeu décousu et puis de nombreuses petites blessures. Fait que c'était pas si simple pour les joueurs. Je pense que, dans l'ensemble, ça a été reçu de façon spectaculaire. Mais même cette semaine, en Allemagne, on observait une réaction des foules puis des partisans, comme quoi le football sans spectateurs, c'était pas le vrai football. Alors, c'est pas pour rien faire que de complémenter ce que Mme Lévy a dit, mais c'est un processus qui va prendre du momentum de semaine en semaine. Puis on va améliorer la situation, puis le jeu va s'améliorer, puis là, on va s'habituer à de nouvelles normes de distanciation et tout ce que ça implique pour les joueurs et les entraîneurs sur le banc et sur les lignes de côté. Mais c'est un retour inespéré, effectivement.
Bon, est-ce que ça veut dire que ça ouvre la porte, parce que c'est un peu comme un laboratoire, surtout en temps de pandémie, est-ce que ça ouvre la porte à une organisation de matchs semblables dans les ligues professionnelles nord-américaines?
Oui, bien, la raison pourquoi l'Allemagne a commencé plus tôt, c'est qu'ils avaient un taux de mortalité beaucoup plus bas qu'ailleurs. Je pense que sur les 176 000 cas en Allemagne, il y a 8 000 décès. Ils ont eu un système de dépistage implanté beaucoup plus tôt, encore une fois, dans toutes les communautés en Allemagne. Donc, ils étaient effectivement bien positionnés, Paul, pour reprendre le sport majeur avant les autres. Donc, ça va donner l'exemple. Puis, l'autre exemple que je veux souligner, c'est qu'à Taïwan, le baseball professionnel a repris il y a 3-4 semaines, sans spectateurs. Puis là, pour la première fois, ils vont allouer jusqu'à 1000 spectateurs dans les matchs. Tu vas me dire que 1000, c'est pas beaucoup. Ils vont les disperser partout.
Ouais.
Mais encore une fois, ils ont progressé parce qu'ils ont réussi à passer les premières étapes de façon positive et sécuritaire pour les joueurs et pour les dirigeants essentiels autour d'un match. Ce que ça va faire, c'est que ça va forcément donner l'exemple aux ligues nord-américaines qui se préparent et qui sont vraiment impatients de reprendre Paul.
D'ailleurs, le baseball majeur a soumis à l'Association des joueurs un document de 67 pages hier qui présente le protocole de retour au jeu.
Oui, puis là-dedans, Paul, c'est 10 000 tests par semaine. C'est un changement complet dans la façon dont les joueurs ont accès au stade. C'est la protection, évidemment, avec les masques pour les joueurs qui n'évoluent pas sur le terrain. On va travailler très fort pour rendre de façon rigoureuse les normes pour les joueurs. Mais le baseball veut être... D'abord, ils veulent débuter leur saison. Ils ont un énorme enjeu. Contrairement aux autres ligues qui avaient commencé leur saison, qui cherchent à terminer, le baseball voulait simplement débuter parce qu'il y a un énorme enjeu financier. On parle peut-être de 4 à 5 milliards de dollars perdus si le baseball ne joue pas cette année, uniquement pour l'industrie du baseball. Ça va coûter très cher. Donc, ils veulent reprendre. Et ils ont soumis d'abord le document sur les règles et les consignes à suivre. Et je pense que les joueurs de l'Association des joueurs sont d'accord avec ça. Mais là où il y a un problème avec le baseball, c'est qu'il y a une dispute financière, bien entendu. Des millionnaires contre des milliardaires.
Oui, parce qu'il n'y a pas de plafond salarial au baseball.
Exactement. Donc, les dirigeants du baseball, le commissaire Rob Manfred et les propriétaires ont proposé de séparer tous les revenus 50-50 d'ici la fin de l'année 2020, Paul. Bon, 50-50, c'est une barrière psychologique que les joueurs de baseball n'acceptent pas, justement, parce qu'ils n'ont jamais accepté un plafond salarial, contrairement aux autres ligues.
Ça va être en litige, très certainement. Je regardais ce document de 67 pages, Ray. Il y a des points aussi précis. qui stipule qu'il n'y aura pas de glacière commune. Il sera interdit de cracher notamment le fameux tabac à chiquer et des graines de tournesol dans plusieurs endroits.
Ouais.
Et on recommande aux joueurs de baseball de se laver les mains après chaque demi-manche.
Ouais. Pas de douche pour les joueurs, Paul.
Ben oui.
Les joueurs ne peuvent pas voyager en taxi ou en Uber ou en Lyft ensemble pour aller au match. Des matchs dans certains stades locaux, d'autres dans des endroits neutres, parce que certaines villes n'ont pas géré la pandémie de la même façon. Alors, tu vois que c'est compliqué, là. C'est honnêtement, là, très, très, très compliqué comme casse-tête logistique pour le baseball.
Mais Ray, Thérèse disait hier qu'on songe donc à ajouter par ordinateur, ni plus ni moins, que des spectateurs, du bruit, des cris. Là, moi, je décroche. Parce que quand je décroche, on ne peut pas artificiellement recréer une ambiance de stade. C'est impossible.
Ouais, ben,
il y a une supercherie derrière ça.
Oui, c'est sûr, Paul. Puis, tu sais, tu es un puriste et tu es un gars légitime, authentique vis-à-vis le sport. Je comprends ta réaction. Le commentaire a été émis par Joe Buck. Joe Buck, c'est l'annonceur de la NFL pour Fox sur le réseau national. C'est pas la NFL qui songe à faire ça, c'est le réseau Fox et les autres réseaux. D'ailleurs, il a confirmé que Fox allait le faire, c'est-à-dire des bruits simulés de partisans et des images virtuelles. Alors, ce sont deux choses.
Oh.
Et la raison pourquoi... c'est
Thérèse, embarquez Thérèse, parce que moi...
Oui, j'écoute, j'écoute.
Mais Thérèse a raison. C'est quelque chose de fabuleux comme avancement, puis on est là en technologie. Bon, il y a une chose qui est claire, c'est que je suis pas sûr qu'on a perfectionné l'art de créer ces réactions-là au bon moment avec le sport.
Thérèse, qu'est-ce que vous en pensez du point de vue télévisuel?
Du point de vue télévisuel,
on va accepter, moi, ce que j'appelle une supercherie?
Écoute, le sport est un spectacle. Je sais pas, Ray, ce que t'en penses, mais le sport, c'est un spectacle. C'est un spectacle. Et là, moi, de m'asseoir devant mon téléviseur, et j'ai l'impression d'être en communion avec les gens qui regardent le match. Okay?
Ouais.
C'est comme ça que ça se passe. Et là, tout à coup, d'être devant mon téléviseur, je vais avoir l'impression d'être seul à le regarder. Moi, je suis assez d'accord. Écoute, je sais que c'est... Je comprends ta réaction, Paul. Je la comprends.
Parce que ça ne sera pas vrai, Thérèse. Ça ne sera pas vrai. Certains soirs, Ray, quand le Canadien joue mal ou laisse filer une avance de 4 buts, on entend des huées au Centre Bell et ça devient une des histoires du match après. Les journalistes rapportent ça. On entendait des huées à partir de la deuxième période.
On ne peut pas aller là.
Mais ce que je veux dire par là, Thérèse, c'est que ça fait partie... Ouais. De la réalité sur des êtres humains qui sont là et qui réagissent comme ça.
Oui, puis c'est impossible de répliquer. Mais je vais te donner deux exemples, Thérèse.
On ne mettra pas des huées si le Canadien se met à mal jouer.
Oui, l'exemple là, des téléromans américains, par exemple, où il y a un rire qui est orchestré parce qu'on a enregistré devant aucune foule. Puis là, on veut un peu partir un peu le momentum, la chaîne des gens à la télé pour rire. L'autre exemple, si tu regardes les émissions de talk show en fin de soirée aux États-Unis, que ce soit Jimmy Fallon ou Jimmy Kimmel ou Stephen Colbert, ben c'est complètement différent maintenant qu'ils sont à la maison, confinés, puis ils font leur spectacle, leur monologue de comédie, puis il n'y a pas personne qui rit.
Ouais.
On ne se sent pas impliqué de la même façon.
C'est vrai. C'est un
exemple parallèle qui peut être utilisé.
Oui,
puis, écoute, tu as des animateurs de foule aussi, là. Tu sais, tu as des gens qui, dans ces talk shows-là, puis tout ça, tu as des animateurs de foule qui disent ou applaudir et tout ça. Alors, écoute, je pense qu'il y a un stade plein. T'sais. Rappelle-toi, Paul, puis Ray, tu vas t'en rappeler, dans la mini-série sur Jean Béliveau.
Oui.
Il y avait des spectateurs dans le stade, ça avait été fait virtuellement, c'était magnifique.
Oui, mais aussi dans les séries Lancer Compte, on l'a fait pour les Boys d'ailleurs, on avait lancé un appel, Ray, pour qu'il y ait des vraies personnes.
Des vraies personnes,
des figurants et des figurants qui remplissaient une aréna. C'était magique. Moi, je le sais, j'ai participé au tournage. On était sur la glace et on avait une ambiance de foule. C'est pas la même chose, Thérèse, que de les ajouter, ces spectateurs, comme on l'a fait de façon extraordinaire dans le film sur Jesse Owens, Ray. On est allé à Berlin, où le stade de 1936, le stade d'Hitler et d'Albert Speer est toujours là, et on a mis du monde par ordinateur. C'est extraordinaire.
Ouais.
C'est extraordinaire, mais c'est un film.
C'est un film, exactement. Ça, c'est bien dit. Mais il y a une chose que je rappelle, c'est que d'abord, on va se concentrer sur les matchs télédiffusés. Alors, déjà, on a le commentaire du commentateur et de l'analyste.
Est-ce que tu as entendu, Ray, on a fait entendre le commentateur allemand hier, les commentateurs n'ont pas perdu leur enthousiasme.
Ben non, ben justement. Alors, on compte beaucoup sur eux pour un peu emmener les gens à s'impliquer émotivement dans le match. Et si on rajoute un peu de son autour, je ne suis pas certain que ça va faire une grande différence pour le partisan, Paul, à la télé, là, parce qu'on va l'oublier rapidement. On va être tellement heureux de voir le produit et la description. Tu sais, ton frère Pierre va revenir décrire les matchs à RDS et puis soudainement, on va être plongé là-dedans comme si c'était la même chose qu'auparavant. C'est sûr que si on regarde dans les gradins, peut-être qu'ils vont faire un meilleur travail de garder les caméras loin des gradins.
Ouais, ouais.
Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne direction qu'on prend pour le moment.
Gars, on va faire une chose. Avec,
ça fait jaser, Paul.
Ben, certain que ça fait jaser, j'espère. Appelez, inondé de textos, Thérèse, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous donnerai un point de vue et un bel exemple. Mais ce qu'on va faire...
Il y a quelqu'un qui nous dit « Cette manipulation virtuelle pourrait nous amener vers une déformation de la réalité potentiellement dangereuse.
» Moi, je suis
intéressant
d'accord.
Intéressant comme commentaire.
D'accord, d'accord. Ouais. Un film, c'est une affaire. Un événement sportif, c'est en direct, c'est de l'émotion humaine. Le sport, Ray, c'est de l'émotion Absolument. Humaine. Et c'est nous, notre capacité de s'émerveiller, de voir des femmes et des hommes être capables d'exploits que nous ne sommes pas capables. Mais avant d'aller plus loin, on va faire l'expérience. Qu'est-ce qu'on fait? On va entendre... Alors, sans la foule, voici ce que ça donne.
Player finds Stefan Leiner under Jonas Hofmann. And they had a looping, but here's Ben Sabaini with it ball in. Number two from Marcus Thuram. Inside 7 minutes. And Gladbach here with a real title statement of intent earlier.
Alors, voyez que ça fait pas mal. Ça fait pas mal gymnase un samedi après-midi.
Ben oui, c'est justement, ça donne l'impression que tu es dans une cour d'école
oui.
ou dans un gymnase
oui.
ou un aréna de hockey mineur avec quelques personnes. Ce sont les bruits des joueurs, puis des réactions, puis des coachs, puis les services autour du terrain de jeu. Mais honnêtement, avec la description, moi, je suivais attentivement. Tu sais, je suis quand même concentré à savoir
ouais.
où est le ballon,
ouais,
où
ouais.
ça se passe.
Oui, oui, c'est sûr. Mais je vais te donner un autre exemple, Ray. Moi, le 31 mars dernier, nous sommes très frustrés, je vais le dévoiler d'ailleurs, j'amenais Madame Thérèse Parisien à Chicago. Et on avait prévu un voyage, Thérèse et moi, ouais. parce que je voulais faire vivre, Ray, à Thérèse, l'ambiance qui règne à un match des Blackhawks de Chicago.
Oui.
j'avais dit à Thérèse, peu importe si les Blackhawks gagnent, si le Canadien gagne, c'est pas important, tu vas entendre, Thérèse, 22 000 spectateurs bruyants pendant l'hymne national. Et tu peux pas faire autrement que d'avoir la chair de poule. Et ça, c'est pas remplaçable. Et puis, évidemment, Thérèse, notre voyage a foiré. Il a foiré. On n'a
oui.
pas pu y aller.
Puis en plus, Ray, aurait fallu que je porte un chandail des Blackhawks.
Absolument.
Ben oui, ben oui, mais Thérèse,
oui.
les Blackhawks sont une équipe classique. Puis tu sais, ce que tu as raté
oui.
cette fois-ci,
oui.
tu vas reprendre, c'est le fameux goal song des Blackhawks,
oui.
qui est une des chansons thématiques lorsque les Hawks marquent un but,
exact.
Les plus populaires
oui.
en Amérique
oui. et
du Nord. Tout le monde voudrait avoir une chanson.
Je lui avais même enseigné, c'est Chelsea Dagger, le titre de la chanson. J'avais même enseigné à Thérèse, quand les Blackhawks m'ont marqué, d'abord la sirène dans le stade, c'est la plus bruyante de tous les amphithéâtres. Es-tu d'accord, Ray?
Oui, absolument.
La sirène de bateau. Et là, après ça... Quand les Hawks scorent, il y a 22 000 personnes qui font c'est magique.
Ouais.
Alors ça,
vraiment...
ça se remplace pas, ça.
Non, ça se remplace pas, puis c'est un des endroits les plus mythiques dans le hockey, un endroit qu'il faut voir une fois dans notre vie. Mais t'as raison, Paul, c'est sûr que c'est pas pareil, mais que veux-tu? Il faut qu'on puisse reprendre à un moment donné, puis revenir un peu à la normale. Puis si le sport de compétition nous donne quelque chose à quoi se mettre sous la dent, puis nous
ben,
divertir
c'est
à
mieux
la maison.
Que rien. C'est mieux
va,
que
ben
rien.
Oui, on va y arriver.
Alors, je veux qu'on termine quand même, le temps nous bouscule. On fera entendre d'ailleurs un petit peu d'ambiance réelle à la fin. Derniers épisodes de la docu-série incroyable sur les Bulls de Chicago, Michael Jordan. On a pu voir la tour, Bill Warrington de Montréal, qui était un joueur des Bulls à l'époque. Tu sais que j'ai décrit les exploits de Bill Warrington quand il était dans l'équipe olympique canadienne aux Jeux de 84.
Oh, wow.
Bill Warrington, 7 pieds 1 pouce, Montréalais. Il avait joué contre Michael Jordan, qui était dans l'équipe olympique de 1984 à Los Angeles.
Oui, mais Bill Warrington, c'est peut-être, je l'ai tweeté hier, là, c'est peut-être le plus célèbre des Montréalais qui a joué dans la NBA. Il a marqué un panier tellement important, un soir de mars 95. C'était 5 matchs après le retour de Michael Jordan de sa première retraite. Puis j'étais au Madison Square Garden à New York ce soir-là. Puis Jordan a marqué 55 points. Mais c'est lui qui avait le ballon avec un pointage égal de 111-111 avec 14 secondes à jouer. Et évidemment, tous les joueurs des Knicks de New York rôdaient autour de Jordan. Et c'est là qu'il a découvert Bill Wennington seul en dessous du panier. Il lui a fait la passe. Wennington a mis le ballon dans le panier. Hey, les Bulls ont remporté le match. Et Wennington est éternellement reconnu comme un des joueurs qui a créé un de ces moments-là dans l'histoire des Bulls.
Quelle série, d'ailleurs. Bon, ben, il faut s'arrêter. Mon Dieu, que ça a passé vite.
Ça va vite, pas.
Est-ce que, Fred, tu peux me donner un petit peu d'ambiance sur Chelsea Dagger, peut-être? Et quand... Écoute ça, oui.
Ah oui.
Ah. N'oubliez pas, Madame Parisienne, vous auriez pu goûter à ça le 31 mars.
Ah,
et Ray, je te rappelle, 3 coupes Stanley en 5 ans.
Paul, ça va nous prendre un bloc sport-musique bientôt.
Oh non, mais écoute, là, j'ai en ce moment des frissons dans le dos. Et Ray, on ne peut pas nous priver d'ambiance humaine.
Non, c'est vrai. Quoi.
Dans les stades. Merci beaucoup, Ray Lalonde.
Bon dimanche, Thérèse.
Et au retour, Thérèse, pouvez-vous me dire justement comment nos spectateurs, nos spectateurs, vous voyez, je suis rendu dans le sport, comment nos auditeurs réagissent
oui,
à ce
absolument.
Débat?
Déjà beaucoup
le
de...
Le sport, c'est de l'émotion. Le sport, oui. C'est de l'émotion humaine. On ne peut pas remplacer par ordinateur ce que nous ressentons quand, je ne sais pas moi, Michael Jordan à l'époque faisait un panier absolument spectaculaire, ou encore aujourd'hui, Philippe Dano score en prolongation, ça ne se remplace pas par un ordinateur.